Bonsoir Sébastien Paou.
Bonsoir à tous. La course contre la montre est lancée au large de La Rochelle. Deux nappes de pétrole, sans doute échappées du cargo qui a coulé mardi. Les opérations de pompage se préparent. Les associations de défense de l'environnement s'attendent malgré tout à une pollution. Tout cela alors que l'État est assigné en justice par des ONG pour inaction climatique et que les chercheurs invités par Emmanuel Macron il y a 3 ans sont de moins en moins nombreux à répondre à l'appel, vous verrez. Des fouilles de visiteurs testées à la prison d'Alençon, des tasers pour les surveillants. Résultat du rendez-vous d'aujourd'hui avec Nicole Belloubet, les gardiens ne sont pas très convaincus. Au sommaire également ce soir, des attitudes à la JFK pour le nouveau candidat démocrate à la présidentielle américaine. Rennes pour sauver l'honneur des clubs français en Coupe d'Europe sur le terrain d'Arsenal ce soir. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, retour en Algérie ce soir, Sébastien. On est à la veille de vendredi, donc d'une nouvelle grande manifestation. C'est important parce que ce sera la première du vendredi depuis qu'Abdelaziz Bouteflika a renoncé à un 5e mandat, mais sans partir. Appelez-nous pour en parler, donnez vos témoignages et impressions 01 45 24 7000.
France Inter. Ce ne sera pas une marée noire comme celle de l'Erika il y a 20 ans, mais le naufrage du Grande America devrait néanmoins polluer les côtes françaises. Le cargo italien n'était pas un pétrolier comme l'Erika, mais il avait 2200 tonnes de fioul dans ses soutes et les hydrocarbures pourraient toucher le littoral atlantique dans 3 ou 4 jours entre La Rochelle et Bordeaux. Les avions de reconnaissance ont repéré une deuxième nappe aujourd'hui, mais elle dérive plus lentement que prévu, ce qui laisse du temps, Valérie Lenigène, pour organiser le pompage.
Il y a désormais 2 nappes, l'une de 13 km de long sur 7 de large et à 20 km, une deuxième de 9 km de long sur 7 km de large. Et bonne nouvelle, elle dérive plus lentement que les premières estimations. Stéphane Doll, le directeur du CEDRE, le centre anti-pollution.
On s'aperçoit que la dérive est autour d'une vingtaine de nautiques par jour. On est au 35 km, si vous voulez, on est à 353 km. De la côte. C'est pas tout de suite. On se reverra dans quelques jours, après, en milieu de semaine prochaine.
Actuellement, il y a des vagues de 6 mètres qui peuvent rendre difficile l'installation des barrages flottants pour pomper le fioul. Mais d'ici quelques jours, on devrait profiter de meilleures fenêtres météo qui vont permettre aux 4 navires anti-pollution engagés dans l'opération de pomper un maximum de fioul. Ils se feront aider par un drone en plus des moyens aériens habituels. C'est une opération d'envergure. Mais François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, précise que l'ensemble des coûts seront à la charge de l'armateur.
C'est la règle, nous y veillons. L'armateur est mis en demeure de conduire un certain nombre d'actions. Lorsqu'il ne le fait pas, ce sont les services de l'État qui prennent le relais et qui, bien sûr, feront payer les frais à la charge de l'armateur.
Une enquête sur les responsabilités est également déjà ouverte par le parquet. L'équipage, qui est toujours à Brest, est entendu par la gendarmerie.
Valérie Lenigène à Brest pour France Inter. Les départements de Gironde et de Charente-Maritime sont en préalerte, ce qui permet là aussi de préparer des moyens de lutte contre la pollution. Mais les associations de défense de l'environnement restent vigilantes et elles redoutent une pollution durable. Patrick Picot est le président de Nature Environnement 17. Il est au micro d'Arnaud Carré de France Bleu La Rochelle.
Là, on n'est pas sur du pétrole brut, on est sur du fioul de combustion de moteur de bateau, donc ça va être très difficile puisque c'est quelque chose qui va flotter, il y en a qui va s'évaporer, il va en arriver par petits morceaux, donc là, on va avoir des pollutions ponctuelles, mais très nocives et très très difficiles à gérer. Ça va être mélangé avec de l'eau, ça va passer partout, et ça va être sur les parcs, sur la vase, sur les productions d'huîtres de moules, ça risque de s'accrocher pour un certain temps sur tous les bouchots et les tables d'huîtres, quoi. Donc, on va se préparer à déposer encore une fois les plaintes, mais c'est pas une solution. Donc, on est complètement impuissant devant ce genre de catastrophe. Et ça, il y a quand même un souci, hein, par rapport au droit international et à la navigation internationale qui nous apporte sur nos côtes, alors soit des bateaux poubelles, soit des bateaux qui sont en mauvais état, soit des bateaux avec des déchets ou des produits toxiques. Et là, le littoral va morfler, quoi.
Un cargo coule, l'État se mobilise pour éviter une catastrophe écologiste, mais il est assigné en justice par les ONG à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle, recours déposé pour inaction climatique. Emmanuel Macron leur a répondu aujourd'hui au sommet de Nairobi. Ce n'est pas le peuple contre le gouvernement, a dit le chef de l'État. C'est nous tous qui devons bouger, gouvernement, grandes entreprises et citoyens. Et pendant ce temps, voici la 3e vague de recrutement en recherche climatique. Vous vous souvenez, cette quasi-offre d'asile de l'Élysée dans la foulée de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, 1800 candidats sur les 2 premières années pour 32 sélectionnés, 85 dossiers seulement cette année, 12 sélectionnés. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Pourtant la France a mis les moyens, hein, 63 millions d'euros à la disposition des chercheurs sur les 3 années. Alors pourquoi l'attractivité est-elle à ce point en baisse?
Oui, en effet, pas de ruée de chercheurs américains sur la dernière vague. Ils ne sont que 3 sur 12. Tous de haut niveau, souligne cependant la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal. Il semble que, d'une part, la situation de la recherche climatique aux États-Unis ne soit pas à ce point catastrophique. D'autre part, les conditions offertes par la France, quoique correctes, ne sont pas exceptionnelles, notamment en termes de salaire. À cause de la référence, les grilles de la fonction publique, la marge de manœuvre est limitée pour les organismes et universités hautes. Parfois, le plongeon est sévère, jusqu'à 2/3 du salaire en moins. À modérer, fait-on valoir, par la gratuité de la couverture sociale ou la scolarité des enfants, pour ceux qui en ont évidemment. Au-delà du salaire, la lourdeur administrative découverte par les premiers lauréats a peut-être dissuadé leurs potentiels successeurs. Le millefeuille du système de recherche français, même un bac plus 12, n'y comprend rien. Sans compter que seul, pour obtenir un visa, trouver un logement, s'inscrire à la sécu, recruter un doctorant, cela relève du parcours du combattant.
Pour autant, les élus ne regrettent pas d'avoir été choisis.
Non, car de façon unanime, ils disent que la possibilité de constituer sa propre équipe, embaucher 3 à 4 personnes, quand on a 1 million à 1,5 million d'euros, c'est alléchant, surtout pour ceux qui se retrouvent aux côtés d'équipes qu'ils connaissaient déjà. La perspective de se nourrir intellectuellement les uns les autres est un atout, c'est de l'oxygène qui fertilise la recherche.
Sophie Bécherel, les élèves sont appelés à une grève scolaire mondiale pour le climat, demain partout dans le monde, là où le gouvernement souhaite en France des débats dans les lycées. L'adolescente suédoise Greta Thunberg, à l'origine de la grève, a été proposée pour le prix Nobel de la paix cette année. Samedi en France, ce sera une marche du siècle, toujours pour le climat.
Les surveillantes de prison, Sébastien, reçu par Nicole Belloubet.
Ils bloquaient les accès des établissements depuis 9 jours, depuis l'agression de 2 d'entre eux à Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé. On verra ce qu'en dit la base et si le mouvement se poursuit. L'Aurélie Carrive compte obtenu les gardiens chez la garde des Sceaux.
Sur le volet sécurité, plusieurs de leurs demandes devraient aboutir. Des bombes au poivre pour certains surveillants, l'expérimentation du taser dans un cadre qui reste à définir. La prison de Condé-sur-Sarthe va aussi tester la palpation systématique des visiteurs. Ceux qui ne voudront pas s'y soumettre se verront refuser l'accès. Les discussions ont en revanche été plus houleuses sur la question du statut des surveillants. Détail Emmanuel Baudin, numéro 1 de FO Pénitentiaire.
On voulait une parité pleine avec la police, en fait, la même catégorie, les mêmes primes. Un surveillant qui rentre dans la pénitentiaire, c'est 1 460 € par mois. Un policier, c'est 1 900 €. On est tous les jours agressés, on a un métier difficile. Si on veut attirer du monde, si on veut pouvoir avoir plus de sécurité, c'est plus de personnel et ça passera que par une revalorisation indemnitaire et statutaire. Tous les jours, vous avez des agents qui quittent l'administration pénitentiaire.
Pour Nicole Belloubet, pas question de faire passer tous les surveillants de la catégorie C à la catégorie B de la fonction publique. Elle préfère miser sur des évolutions de carrière. Youssef Badr, porte-parole du ministère.
Un surveillant aujourd'hui, on ne peut pas lui dire quand il rentre dans la profession, il va faire ouvrir des portes et fermer des portes toute sa vie. Il faut que quand il rentre, comme étant surveillant, sur la coursive, il puisse avoir des perspectives parce qu'il y a énormément de perspectives dans la pénitentiaire et qu'on puisse, nous, à la chancellerie, les accompagner et les valoriser là-dessus.
Pour l'heure, les syndicats consultent leurs adhérents avant de décider de la suite, mais plusieurs déplorent déjà, ce soir, des avancées trop timides à leur goût.
Les agents des impôts également mobilisés contre les suppressions d'emplois avec un slogan « Même plus l'impôt sur les eaux ». Slogan entendu notamment à Tourcoing, la ville de leur ministre Gérald Darmanin. Les syndicats déplorent 25 000 emplois supprimés en 10 ans et parlent de 30 000 autres suppressions dans les 3 à 5 ans à venir. Tariq Ramadan reste sous le coup de 2 mises en examen. La cour d'appel rejette sa demande. L'islamologue reste poursuivi pour 2 viols qu'il conteste. Il parle, lui, de relations de domination consenties. Ces mises en examen maintenues, une victoire pour l'avocat de l'une des victimes présumées, Éric Morin, au micro de Sophie Parmentier.
La cour d'appel a rendu une décision essentielle aujourd'hui en confirmant le fait que M. Tariq Ramadan restait bien mis en examen des 2 viols pour lesquels il avait été mis en examen par les juges d'instruction. Face aux mensonges et aux dénégations de M. Tariq Ramadan, la parole des victimes, la parole des plaignantes a pesé plus lourd. Et je peux vous dire que c'est une bonne nouvelle que la parole des femmes en 2019 pèse plus lourd que ces mensonges qui étaient considérables. Monsieur Ramadan a menti tout au long de cette instruction qui n'est pas terminée. Sa défense a bluffé et le dossier a parlé. Aujourd'hui, l'instruction continue et c'est une très très grande satisfaction.
Tariq Ramadan a été libéré en novembre après 10 mois de détention contre une caution de 300 000 €. Il est aujourd'hui sous contrôle judiciaire. À la page justice, encore les premières audiences en vidéo aujourd'hui à Lyon et à Nancy, expérimentées pour les demandeurs d'asile dont les dossiers sont refusés. Ils ont dû plaider leur cause face à un juge qui se trouvait à Montreuil, à la cour du droit d'asile. Un test à huis clos qui a tourné au fiasco à Nancy, Mohand Chibani. Avocats et associations refusent ce qu'ils appellent une justice d'abattage.
Pour cette première vidéo audience à Nancy, les journalistes étaient invités à suivre les débats entre un jeune Kosovar débouté de sa demande d'asile et un juge de la Cour nationale du droit d'asile à Montreuil. Mais le bâtonnier de l'ordre des avocats, lui, n'a rien reçu, d'où sa colère.
Le faire en 4 minutes de cette façon, même la présidente, c'est quand même minable.
La salle de vidéo audience est équipée d'écrans et de caméras dernier cri. Un traducteur assiste le jeune Kosovar. Pas de quoi convaincre le bâtonnier Frédéric Bernat, totalement opposé à ce dispositif.
Clairement, on se destine à une justice qui va faire de l'abattage avec pour seul et unique but de refouler tout étranger du sol français.
François Sichler, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, se dit persuadée que le dispositif ne changera pas fondamentalement le nombre de rejets de demandes d'asile et permettra au contraire d'apporter du confort aux personnes concernées.
On sait bien, chaque fois qu'il y a un changement, on constate des résistances. Cette justice, en fait, elle n'est pas interposée. Les caméras permettent de zoomer sur le visage du juge et je pense qu'au contraire, l'effet de proximité sera plus important que jamais.
Oui, mais on ne raconte pas ses souffrances à travers un écran, explique Gilbert Pedot de la Ligue des droits de l'homme à Nancy.
Ce sont des récits terribles et faire des récits terribles face à un écran, je ne pense pas que ce soit une bonne solution.
Les avocats appellent à ne plaider aucun recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Nancy, Mohand Chibani, France Bleu Lorraine pour France Inter.
Le cardinal Barbarin sera reçu par le pape lundi en audience privée. Le plus haut responsable de l'Église catholique en France vient remettre sa démission après sa condamnation la semaine dernière à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse. L'archevêque de Lyon a 68 ans.
Il est 19h12 sur France Inter. Sébastien, les boîtes noires du Boeing d'Ethiopian Airlines sont au BEA.
Le bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation civile français qui va lire l'enregistreur des données de vol et celui des conversations et des alarmes du cockpit pour essayer de comprendre les causes de l'accident de l'avion qui a fait 157 morts dimanche au départ d'Addis Abeba. En attendant, la dernière version du 737 est immobilisée presque partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Les États-Unis qui ont un nouveau candidat à la présidentielle de 2020. Depuis aujourd'hui, l'étoile montante du Parti démocrate, Beto O'Rourke, se lance officiellement. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
C'est le 15e candidat côté démocrate, mais à 46 ans, avec ses faux airs de Kennedy ou d'Obama, il peut séduire dans son camp.
Oui, c'est vrai, et c'est avec un long papier dans le très chic magazine Vanity Fair et une vidéo de 3 minutes et demie publiée sur les réseaux sociaux ce matin, avec son épouse à ses côtés, que Beto O'Rourke annonce donc ceci.
Amy and I are happy to share with you that I'm running to serve you as the next president of the United States of America.
Qu'il est bien candidat pour être le futur président des États-Unis. Le Texan, donc, à 46 ans, Robert de son prénom, mais à El Paso, tout le monde l'appelle Beto. Il a été représentant de son État, mais jamais sénateur ni gouverneur. Une expérience politique limitée, mais aux élections de mi-mandat en novembre, vous vous en souvenez, Sébastien, il avait bien failli renverser le sénateur sortant Ted Cruz. Et le fait qu'un démocrate jeune puisse presque l'emporter sur ses terres républicaines l'avait littéralement projeté dans la lumière. O'Rourke, donc, candidat à l'investiture démocrate, et dès aujourd'hui en campagne dans l'Iowa. Je peux même pas vous dire combien c'est important pour moi d'être là. Je m'en souviendrai toute ma vie, chacun d'entre vous, vos visages, la manière dont vous êtes habillés. Et dans ce petit coffee shop de la ville de Keokuk, une habitante lui lance « Fais en sorte qu'on se souvienne tous aussi de ce jour-là ». Alors c'est vrai que celui qui dans son adolescence fut un musicien punk surjoue un peu le côté Kennedy ou Obama en bras de chemise, mais incontestablement Sébastien, il est charismatique. Pour l'instant dans l'Iowa, il n'est crédité que de 5% des voix, mais ce premier caucus de l'Iowa est dans 10 mois, en janvier de l'année prochaine, et Beto O'Rourke a encore le temps de faire campagne.
En effet, merci Grégory Phillips en direct depuis Washington. Commentaire de Trump qu'il a regardé ce matin à la télévision. Il fait beaucoup de gestes avec ses mains. Je me suis demandé s'il était fou ou si c'était son comportement. Trump, qui se frotte les mains d'avance à l'idée d'une sortie du Royaume-Uni de l'Europe, le président américain prédit un accord commercial de grande ampleur avec Londres et trouve que le Brexit aura pu être beaucoup mieux négocié. Les députés britanniques ont dit non au deal de Theresa May, non aussi au no deal, et ils viennent de rejeter également un second référendum. Ils se prononcent ce soir sur un report du Brexit à 15 jours maintenant de la date du divorce. La première ministre leur promet que ce report sera bref s'ils valident l'accord de retrait qu'elle a discuté avec l'Union européenne, ce qui n'est pas gagné. Le pouvoir algérien tente de donner des gages à la veille d'un nouveau vendredi de mobilisation contre le mandat Bouteflika. Le nouveau Premier ministre promet la formation d'un nouveau gouvernement en début de semaine prochaine, une équipe composée notamment d'experts et où les jeunes, les femmes seront représentées. Équipe qui ne devrait pas rester longtemps aux affaires. Vous y revenez. Au téléphone sonne dans une dizaine de minutes, Fabienne.
Absolument. Le streaming, Sébastien, toujours moteur de la croissance du marché de la musique.
Il a représenté plus de la moitié des ventes l'an dernier en France et il permet désormais de compenser la baisse continue des ventes de CD et vinyle. Les abonnements aux plateformes comme Spotify ou Deezer représentent plus de 80% du chiffre d'affaires de l'écoute en ligne. Avant d'aller à Londres où Rennes tente ce soir de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa, ce commentaire de Didier Deschamps sur l'absence de club français en quart de finale de Ligue des Champions.
Le constat, malheureusement, il est négatif. Ça s'est mal passé, très mal passé. C'est préjudiciable, oui, par rapport au football français, parce qu'on a besoin de locomotives. C'est important pour la Ligue 1 et la valeur du football français d'avoir des clubs présents en bout de compétition sur la scène internationale.
Le sélectionneur des Bleus au micro de Cécilia Arbona à propos donc de l'élimination du PSG. Il rappelle deux revenants pour les matchs de qualification pour l'Euro 2020 contre la Moldavie et l'Islande à la fin du mois. Levin Kurzawa et Kingsley Coman. Comme promis, un détour par Londres où Rennes peut accéder ce soir au premier quart de finale européenne de son histoire et sauver l'honneur tricolore dont parlait Didier Deschamps à l'instant. Bonsoir Sarah Mansoura.
Bonsoir.
Les Rennais affrontent Arsenal en huitième de finale retour et ils y croient avec leur victoire 3-1 à l'aller et puis les 5000 supporters bretons qui sont dans les tribunes.
Exactement, ce 3-1 à l'aller, ça veut dire que Rennes est quand même bien parti pour se qualifier en quart de finale. Le premier acte, c'était jeudi dernier, quand ils se sont imposés sur leur terrain au terme d'un match épique. Et bien là, pour ce deuxième acte, il va falloir qu'ils rééditent la même performance au moins. Ils ont besoin d'un match nul, voire d'une défaite par un but d'écart environ pour se qualifier. Mais même avec ces deux buts d'avance, même avec ces statistiques favorables, et bien ce sera une autre confrontation, bien plus difficile, dans l'antre des Gunners d'Arsenal, qui seront extrêmement revanchards. Ils vont jouer sur un terrain inconnu pour eux, dans un stade de 60 000 places. C'est deux fois le Roizen Park rennais. Mais les Bretons sont en confiance. Ils seront poussés, effectivement, au bord de la pelouse par un parcage de 5 à 6 000 supporters rouges et noirs qui ont, pour certains, sacrifié beaucoup pour arriver jusqu'ici à Londres. On les entendait déjà dans les rues londoniennes tout à l'heure. On les entendra certainement encore plus dans ce stade, car eh bien, c'est le rêve d'une vie pour beaucoup de supporters de voir enfin leur rouge et noir dans l'élite des clubs européens.
Sarah Mansoura de France Bleu Armorique en direct de Londres. Merci Arsenal Rennes. C'est à partir de 21h. Et puis une première recrue pour Zinedine Zidane qui vient d'arriver en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid. Le défenseur brésilien Eder Militao, 21 ans, quittera Porto cet été pour la capitale espagnole pour 6 ans et pour 50 millions d'euros.
Ben, ça fait beaucoup d'euros pour chaque année.
Certes.
Allez Sébastien Power, laissez-moi, je vous en prie. Je vais vous retarder. Allez, à demain.